With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 milieux sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. Régulièrement, dans l'élaboration des épisodes de ce podcast, nous tentons d'injecter un peu d'informations venues de l'étranger, de sortir des limites de notre territoire. C'est un grand classique, des rédactions qui toutes essayent d'agrémenter leur ligne éditoriale d'un peu d'actu international. La difficulté, c'est de devoir faire le tri, car on ne peut pas prétendre à l'exhaustivité. Alors, plutôt la guerre au Yémen, qui dure depuis 5 ans et a fait plusieurs dizaines de milliers de morts, ou plutôt la politique interne en Turquie, ses conséquences sur la diplomatie mondiale, ou encore le Soudan, où les militaires ont pris le pouvoir en tirant sur la population tout en coupant les accès au web et à la 4G pour éviter que l'info ne circule. Aussi sordide et cynique qu'il puisse paraître, ce choix, il fait partie de la fabrique de l'information. Il est même régi par des codes, des lois, comme celle du mort kilomètre, dont on a eu envie de déconstruire un peu les rouages avec cet épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
Sur ces images amateurs tournées sur le lieu du sit-in à Khartoum, les forces soudanaises avancent vers la foule. Soudain, les manifestants se mettent à courir, visiblement effrayés. La confusion règne, puis des coups de feu retentissent. Plusieurs hommes s'écroulent, tandis que la salve se poursuit.
J'ai mentionné le Soudan à l'instant, ça n'est pas pour rien, puisque l'idée de cet épisode, elle est venue justement de notre envie de creuser la question soudanaise sur laquelle j'avais notamment été alerté, pas par un article, mais par une série de tweets, un thread écrit par une consoeur, la journaliste freelance Kumbis Oplowi. J'ai donc invité à venir en discuter. J'ai voulu savoir, pour démarrer, comment elle en était arrivée à s'intéresser au Soudan.
En fait, je regarde beaucoup l'actualité via Twitter, je regarde les trends, les tendances, tout ça. Et aussi, à côté, il y a la recherche. Donc, je suis tombée dessus. C'était Rokhaya Diallo qui avait partagé un article de Libération. Et je me suis dit que beaucoup de gens ne lisent pas d'articles, donc je voulais juste simplifier ça.
Et du coup, alors, si on résume un peu ce qui se passe en ce moment au Soudan, qu'est-ce que vous avez compris de la situation là-bas?
En fait, on sait déjà que le Soudan a subi beaucoup de catastrophes, que ce soit le Darfour, où il y a eu 300 000 morts, plus ou moins, que ce soit la famine, tout ça. Mais depuis décembre 2018, en fait, le peuple est descendu dans la rue parce que le pain avait triplé de prix. Et depuis, il demande la démission de Omar al-Bashir. Et grâce à l'armée, il a été destitué. Ouais. Mais après, l'armée a repris le pouvoir dans la violence. Les manifestants, les civils, ne voulaient pas d'un conseil de transition militaire. Ils voulaient directement que le conseil soit donné aux civils. Donc, ils ont fait un sitting à Khartoum devant le QG de la base militaire. Et la nuit du 3 juin, ils ont été dispersés dans le sang, dans les viols, tout ça.
Ce qui frappe toujours avec ce type de drame quand ils se produisent, c'est la difficulté qu'on a... J'ai pas envie de dire à s'y intéresser, mais en tout cas à lui faire trouver un écho dans les médias. C'est quelque chose de récurrent. C'est ça qui vous a frappé, j'imagine?
À l'école de journalisme, on appelle ça la loi mort au kilomètre. Oui. Donc les gens sont plus sensibles à une catastrophe qui est proche d'eux, en distance, mais aussi quand les victimes leur ressemblent, en fait. Donc les Français sont plus touchés par des victimes à Boston, comme ils ont plus ou moins le même rythme de vie, tout ça, que des villageois kényans. Donc c'est logique, c'est humain, mais c'est triste.
Est-ce qu'il y a des moyens, d'après vous, de faire évoluer ça, de faire changer ça? Est-ce que, par exemple, Twitter, parce qu'on le voit avec le succès qu'a pu avoir le thread, et donc on va dire l'intérêt qu'il a récolté, parce qu'il y a pas mal de gens qui vous remerciaient, qui ont trouvé de la satisfaction à apprendre des choses et à être au courant des choses grâce à ça. Peut-être que, justement, via les réseaux, on peut casser un peu cette loi du mort-kilomètre qu'on nous resserre systématiquement pour ce genre d'affaires.
Mais c'est vraiment via Internet que ça va changer, je pense, parce qu'Internet a fait du monde un grand village, et on a des news de partout dans le monde, et on suit des gens, par exemple, qui habitent à Beyrouth, qui habitent au Caire, tout ça, et par exemple, la vague de soutien bleu a été lancée par les amis d'un des Soudanais qui est mort. Et je pense que c'est vraiment Internet qui va nous rapprocher du reste du monde, en fait.
Justement, vous mentionnez la vague de soutien bleu. On peut peut-être expliquer ce que c'est.
Oui. En fait, il y a eu un hashtag Blue for Sudan. Et c'est après la mort d'un jeune londonien qui est parti au Soudan pour manifester avec ses compatriotes. Il a été tué le 3 juin. Et ses amis à Londres ont mis leurs photos en bleu. Par signe de respect, par signe de soutien. Et beaucoup de stars, dont Rihanna, ont reposté le mouvement, et voilà.
Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu frustrant quand on est justement une jeune journaliste qui démarre dans le métier, de voir qu'on est confronté à des réalités aussi cyniques que justement la loi du mort-kilomètre ?
En fait, oui, c'est cynique, mais encore une fois, c'est l'être humain. Ce qui nous touche vraiment, c'est le côté extraordinaire. Mmh. Et quand on voit un pays où il y a beaucoup de massacres, il y a beaucoup de morts, les gens vont juste dire, c'est triste, c'est passé autre chose. Mmh. Donc je pense ce qu'il faudrait faire en tant que journaliste et média, c'est humaniser le reste du monde et pas seulement les montrer via les morts, via les victimes. Parce que même si on peut ressentir de l'empathie pour une victime, on ne va jamais la considérer comme notre égale. Mmh. Donc je pense que c'est notre rôle en tant que média de rendre humain le reste du monde aussi.
Et peut-être que ce que ça sous-entend derrière cette difficulté qu'on a de faire entendre la réalité, notamment quand ça touche des pays africains, c'est peut-être le manque de diversité qu'il y a dans les rédactions aussi. Parce que forcément, on s'intéresse moins à ce qui peut se passer dans des pays où la population est majoritairement noire, oui, quand on est entouré d'une rédaction de journalistes blancs, quelque part. Je dis ça en tant que journaliste blanc moi-même.
Mais c'est tout à fait vrai. Rien que le choix des sujets, le choix et la façon de traiter les sujets marque ou montre le manque de diversité dans les médias. Mmh. On en parle souvent, mais souvent on le laisse à côté et on parle plus de sexisme, alors que par exemple les femmes issus de la diversité, souffrent de sexisme et de racisme. Mmh. Et j'ai fait plusieurs médias en France, et j'ai toujours été la seule noire. Et je ne trouve pas ça normal, en fait. Mmh. Et je ne sais pas si ça va changer un jour, parce qu'on se plaint, on se plaint. Et le problème, c'est que, comme on n'est pas représenté, on crée des médias communautaires. Mais encore une fois, c'est lu par la communauté. Mmh. Donc ça ne change pas vraiment le problème.
Oui, l'idée, c'est d'arriver à casser ce côté de fonctionnement par cercle, justement par bulle de filtre. Alors, on a beaucoup dit qu'Internet favorisait les bulles de filtre, mais quelque part, on voit aussi qu'il peut permettre de les briser.
Oui, je pense aussi que Internet permet de mettre en lumière des choses qu'on pensait juste ressentir nous-mêmes. Mmh. Par exemple, le sexisme dans les rédactions. Quand la Ligue du LOL est sortie, tout le monde a commencé à parler. On a vu que tous les médias étaient concernés, pas seulement un seul média. Et je pense que parler du manque de diversité sur Internet n'est pas vain, parce que il y a beaucoup de Twitter, c'est vraiment le média des journalistes par excellence. Et je pense qu'ils lisent. Et je pense qu'un jour ou l'autre, ils n'ont plus le choix que d'ouvrir leurs portes. Parce qu'avant, on disait qu'il n'y avait pas assez de diversité dans les écoles de journalisme. Mais maintenant, on voit que c'est faux. Il y a de plus en plus de jeunes asiatiques, d'origine africaine, d'origine rom, qui s'intéressent au journalisme. Donc je pense qu'un jour, s'ils ne veulent pas qu'on boycotte carrément les médias mainstream, je pense qu'ils seront obligés de s'ouvrir.
Il y a aussi le fait que, par l'usage intensif des réseaux, on devient soi-même quasiment un média. Vous avez une forte communauté de followers, 14 000, je crois, ouais, abonnés sur Twitter, ce qui est quand même conséquent. Ça crée aussi une dynamique qui peut permettre de faire valoir justement ces arguments-là auprès des rédactions après.
Oui, faut pas mentir qu'avoir des followers, ça crée, ça donne un poids, une visibilité, et ça me rend plus légitime que d'autres, à tort ou à raison. Mais de nos jours, quand vous voulez postuler quelque part, si vous avez 15 000 followers avec vous, ça marque. Parce qu'on est vraiment dans le monde de la starification. Donc, si maintenant un potentiel recruteur sait que vous avez 15 000 followers, donc 15 000 potentiels lecteurs, ça va jouer dans la balance.
Et est-ce que, justement, ça peut être un levier pour proposer des sujets, je pense, j'en reviens au Soudan, pour proposer des sujets qui ne seraient pas forcément traités par la rédaction classiquement?
Oui. Justement, Glamour me propose souvent de traiter de sujets. Par exemple, j'ai fait de la violence policière. J'ai aussi fait, par exemple, les jeunes racisés qui souffrent de discrimination raciste à l'école. Et oui, c'est vraiment un levier, c'est une opportunité. Mais encore une fois, comme je disais, souvent, on nous enferme justement dans cette catégorie et on nous dit, comme tu es noir, tu peux traiter des sujets noirs. Oui. Alors que ce n'est pas ce qu'on veut faire. On le fait parce qu'on est obligé de parler et d'avoir de la diversité dans nos contenus. Mais c'est pas tout ce qu'on veut faire.
Oui, il faut pas se transformer en argument, on va dire, enfin en étant une caution. Il y a aussi cet enjeu-là qui est très fort.
Oui, c'est vraiment ça, parce que souvent on se dit il y a un noir dans la rédaction, il y a un arabe dans la rédaction. Nous sommes diversifiés. Et peut-être que par exemple le noir ou l'arabe n'est pas du tout intéressé par les sujets de minorité et il a tout à fait le droit. Donc je pense que un seul racisé dans une rédaction, c'est pas du tout suffisant.
Si on veut casser la logique un poil absurde qui détermine en partie la manière qu'on a de construire l'information, il faut bien en connaître les fonctionnements. Par exemple, cette loi théorique mentionnée plusieurs fois depuis le début de l'épisode, celle du mort-kilomètre, implicite dans bon nombre de rédactions, mais tout à fait perceptible du côté du public. J'ai eu envie d'entendre sur le sujet quelqu'un qui connaît bien les coulisses de la fabrication de l'actu. C'est François Jost, il est sémiologue, spécialiste des médias. Je suis allé le voir pour lui demander concrètement ce qu'est la loi du mort-kilomètre.
C'est une loi qu'on appelle aussi la loi de proximité, c'est-à-dire que le journaliste s'adresse à des cercles concentriques en partant du plus près, et on sait que ce qui intéresse les gens, c'est souvent ce qui est le plus proche. Plus on s'éloigne, moins ça intéresse les gens. Donc, quand il y a des morts, il faut beaucoup de morts à l'étranger pour que ça intéresse autant que un simple crime chez nous. C'est sans doute une loi dont on n'est pas entièrement fier, parce que, évidemment, c'est complètement absurde qu'on mette en fin de journal télévisé, par exemple, parfois des drames, des conflits qui entraînent des morts, qui se passent loin de nous. Donc, ça donne pas une vision, j'allais dire, même de l'être humain, très très reluisante, parce que le fait qu'on soit, on voit parfois des inondations qui sont très graves en France, que des gens sont dans des situations épouvantables. Au même moment, il se passe une tornade aux États-Unis qui entraînent des voitures, etc. Et on parle plutôt de la situation en France, évidemment. Donc on n'est pas... je pense que si on a une conception de l'humanité un petit peu élevée, on est obligé d'en rabattre beaucoup.
Est-ce que cette manière d'aborder l'actualité, donc par cercle concentrique, elle a toujours fonctionné de la même façon, ou est-ce que vous l'avez vu, vous, évoluer en fonction, on va dire, des changements qu'a connu le paysage médiatique?
Alors, je pense qu'elle a évolué notamment avec les télévisions d'information continue. Je me rappelle une fois, j'étais en Argentine, c'est un exemple lointain justement, j'étais en Argentine et j'étais dans la chambre d'hôtel et je vois un direct absolument très très long sur un problème qui s'était passé dans un supermarché, une agression, quelque chose comme ça. Donc, 2 heures après, je vois un ami argentin, je lui dis, mais disons, c'est terrible ce qui s'est passé là cet après-midi dans un supermarché. Et évidemment, il n'était absolument pas au courant parce que c'était un micro-événement très très proche sur des chaînes qui font de l'information en continu et qui doivent fournir constamment de l'information. Et donc, quand c'est qu'il y a la mort de Johnny Hallyday, j'allais dire, tant mieux pour le média. Quand il n'y en a pas, on cherche des petites choses qui peuvent concerner les gens très très proches. On pourrait presque dire que, si vous voulez, par exemple, dans le cas des affaires dans des manifestations des Gilets jaunes, on a eu ces derniers temps où les effectifs baissent énormément, des directs démesurés, mais parce que ça touche Paris, la capitales, d'autres villes, etc.
Donc, par contre, on va dire, le traitement réservé à des catastrophes ou à des crimes très graves qui se passent loin de chez nous, lui n'a jamais trop bougé, c'est-à-dire qu'il est toujours relégué au fond, on va dire, du programme du journal.
Oui, bien sûr. Mais je crois qu'il faut insister sur autre chose aussi, c'est pas seulement l'information en tant que telle, c'est aussi la représentation visuelle, l'image. Si c'est un enfant est renversé aujourd'hui par une voiture, si on montre sa photo, on va la flouter par égard à la fois à cet enfant, la dignité humaine, et puis ses parents, la famille, etc. En revanche, dès que ça franchit quelques centaines de kilomètres, cette loi ne vaut plus. On se rappelle par exemple l'histoire du petit Italien, Elan, qui retrouvait sur une plage un enfant de migrants. Et il a été montré partout. Alors que même que les parents, d'ailleurs, ont protesté, parce que, je veux dire, ça s'ajoute une douleur supplémentaire, si vous voulez, à la mort de cet enfant. Alors, là aussi, il y a, comment dire, on peut distinguer des degrés d'éthique journalistique, de déontologie journalistique, parce que certains journaux ont soit mis justement la photo aussi de loin, où on voit les choses, mais sans reconnaître, identifier un enfant précis, soit parfois on floutait l'enfant. Mais on voit bien que, si vous voulez, alors qu'on est obligé de le faire dès que c'est en France, c'est laissé à l'appréciation, finalement, de la rédaction, dès que c'est lointain.
C'est intéressant que vous mentionniez l'affaire du petit Alan Kurdi, donc qui avait été retrouvé mort sur une plage, il me semble que c'était sur une île turque, parce que justement, en préparant cet épisode, je me suis fait la réflexion que, pour le coup, cette mort-là avait suscité un regain d'intérêt pour des histoires qui finalement n'intéressaient pas tant que ça et les médias et le public. C'est-à-dire qu'il y avait eu déjà beaucoup de morts en Méditerranée, beaucoup de migrants qui avaient trouvé la mort en tentant de traverser la Méditerranée, mais il avait fallu attendre cet enfant, ce mort-là, pour que les choses changent. Est-ce que c'est un phénomène médiatique récurrent? C'est-à-dire qu'une mort peut faire basculer là où 1000 morts finalement n'avaient pas forcément suscité le même intérêt?
Oui, c'est-à-dire que là, si vous voulez, on avait une image spectaculaire qui permettait d'être, enfin qui était emblématique de tout un phénomène. Mais comme vous dites d'ailleurs, ça n'a pas changé l'attitude des Français. Le lendemain, ils étaient aussi nombreux à être contre l'immigration, mais ça a fait, comme on dit aujourd'hui, le buzz. C'est le cas, ça a été antérieurement aussi le cas du petit garçon qui a été absorbé par des boues dans un puits, je ne me rappelle plus son nom, et où cette image a fait le tour du monde, simplement parce que c'est, j'allais dire, une belle image, comme disent certains journalistes un peu cyniquement.
Petite parenthèse pour préciser une chose, le garçon dont parle François Jost est en réalité une jeune fille. Elle s'appelait Omeyra Sanchez, elle est morte en 1985, c'était en Colombie, elle avait 13 ans, elle était bloquée dans les débris de sa maison détruite après l'éruption d'un volcan. Elle est restée coincée 3 jours et 3 nuits dans la boue et les gravats avant de mourir quasiment en direct, puisque son agonie a été largement filmée et photographiée. Ça avait provoqué à l'époque un scandale mondial, notamment déjà sur la spectacularisation de l'info au mépris de la dignité des individus. Voilà, fin de la parenthèse. Retour à notre discussion avec François Jost.
Ça peut renverser à ce moment-là l'information, la hiérarchie de l'information elle-même. C'est-à-dire que si on vous dit il y a tant de morts au Soudan mais qu'on n'a pas d'image, ça n'existe pas véritablement. S'il y a des images, oui, c'est des images et des images qu'on n'attend pas, un petit peu disruptives, comme on dit aujourd'hui, alors là, ça peut être en tête de journal.
On aurait pu croire que, je parlais de mutations tout à l'heure, parmi les dernières mutations qu'a connues le monde médiatique, il y a évidemment l'irruption du web social, des réseaux sociaux et de toutes ces plateformes qui sont maintenant un peu partout. On aurait pu croire justement que l'arrivée de ces plateformes aurait réduit, ou en tout cas élargi, je ne sais pas quel est le terme exact, en tout cas aurait modifié ce système de cercle concentrique, c'est-à-dire aurait réduit en tout cas la proximité et permis l'accès à plus d'images et donc plus d'informations et donc peut-être changer un peu les choses de ce point de vue-là dans la manière dont circulent ces informations-là. Sauf que j'ai l'impression que ça n'est pas le cas.
Alors, je ne sais pas si c'est pas le cas, parce que, si vous voulez, quand vous regardez, par exemple, un site d'information sérieux, je ne sais pas, France Info, quelque chose comme ça, vous observez quand même toujours une assez grande différence entre les informations qui touchent l'étranger est assez lointain, qui sont, si vous regardez les préférences des, ou les, le nombre de vues, qui sont assez lointaines dans la hiérarchie. En revanche, si vous avez un type qui fout le bordel dans un studio de télé ou qui ça fait une image extraordinaire, elle va être partagée énormément par les gens. Et à ce moment-là, le spectaculaire l'emporte sur cette fameuse loi d'éloignement ou de proximité.
Donc finalement, c'est plus, on va dire, la puissance de l'image que la puissance du fait qui, quelque part, peut faire déjouer cette loi dont on parle depuis tout à l'heure.
Oui, je pense qu'effectivement, c'est sans doute assez différent pour la radio, justement, et pour la télévision, parce que si vous avez une image tout à fait spectaculaire, ça va aller plus loin que ça va mettre en crise cette loi de proximité.
Est-ce que d'après vous, cette loi de proximité ou loi du mort-kilomètre, ça dépend du degré de cynisme qu'on veut y voir, elle a encore de beaux jours devant elle ?
Ah ben moi j'en suis convaincu, bien sûr, avec les réserves que j'ai faites, j'en suis convaincu parce que les gens fonctionnent comme ça, et il faut faire très attention, parce qu'on se rappelle que des gens d'extrême droite, comme Le Pen disait, on s'intéresse plus à sa famille qu'aux voisins, plus aux voisins qu'aux gens d'en face, et plus, voilà. Donc il faut faire très attention à ce que ça devienne, que ça n'entraîne pas un nationalisme, un refus de l'autre considérable, etc. Alors, je pense que ça va continuer, bien entendu. En même temps, c'est vrai qu'il y a le fait que le net, et on peut dire, c'est quelque chose dont la circonférence est partout et le centre nulle part. Donc, il peut y avoir des images qui viennent de n'importe où, qui tout d'un coup emportent dans le flot, enfin passent devant. Donc, il peut y avoir ça, mais ça n'empêche que le détachement du spectateur, l'empathie qu'il peut avoir pour le sujet filmé sera toujours beaucoup moindre quand ça sera lointain que quand ça sera proche.
Faut-il donc se résoudre à cette hiérarchisation finalement assez triste de l'info ? Ou se dire que malgré tout, les crises que traverse le monde médiatique auront au moins ça de bon qu'elles le pousseront peut-être à réévaluer quelques-unes de ces lois ? J'ai pas la réponse, mais on surveillera évidemment ces évolutions du mieux qu'on pourra. Merci à Kumbis Oplowi et François Jost pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter si vous voulez nous parler, et à demain pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.